Et nous retrouvons tout de suite le téléphone sonne, les polémiques de la semaine dirigées par Pierre Veille.
Bonsoir, nos invités dans ce studio, Pierre Aski, journaliste fondateur du site d'information rue 89. Bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Lefebvre, député UMP des Hauts-de-Seine, porte-parole de l'UMP, bienvenue.
Bonsoir.
Et Alain Raymond, chroniqueur à l'hebdomadaire Marianne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous écrivez aussi chaque jour un billet dans le quotidien La Croix. Alors, nos thèmes de discussion ce soir, la reculade de Xavier Darcos et Nicolas Sarkozy face aux manifestations lycéennes, le débat parlementaire sur le travail dominical reporté au mois prochain, ça patine dans la majorité et la gauche jubile, le bilan de la présidence française de l'Union européenne, la prison de Fleury-Mérogis filmée de l'intérieur par des détenus, et puis le journaliste irakien qui lance ses chaussures vers George Bush. Sur tous ces sujets, réagissez, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000. On commence avec monsieur Muntazer Al-Zaidi, correspondant de la télévision irakienne Al-Baghdadia. Il est devenu un héros dans le monde arabe. C'est lui qui a lancé ses chaussures sur George Bush. Alors question, est-ce un geste courageux, légitime ou ridicule, Alain Raymond?
Oh, il est jouissif surtout. Enfin, moi, en tant que téléspectateur, j'ai trouvé ça formidable. C'est une image extraordinaire. On se souvient tous, je crois, de George Bush plastronnant sur un porte-avions en combinaison de pilote sous la bannière mission accomplie, taratata et tout, voilà. Bon, et je pense qu'il espérait terminer son mandat pareil en grande pompe. Ben, faut croire qu'on a les pompes qu'on mérite, parce que celle-là, il les a bien su. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça jouissif, quoi. C'est quand même voir le chef d'État du pays le plus puissant du monde réduit à esquisser deux godasses qui lui sont envoyées en pleine figure. Et en plus qu'il y ait des commentateurs qui disent mais il a pas été si mauvais que ça, il a réussi à les esquiver. Voilà quoi on en est réduit. Non, moi je trouve que c'est un geste formidable. Ça montre l'état de dérision dans lequel se termine cette présidence calamiteuse pour tout le monde, même si George Bush a été, si je me souviens bien, un grand ami de Nicolas Sarkozy, qui a été le voir à ses débuts pour dire avant qu'il soit président, hein, Nicolas Sarkozy, pour dire que le discours de Villepin à l'ONU et les positions de Chirac sur l'Irak, lui-même, il trouvait pas ça terrible. Aujourd'hui, c'est assez drôle de voir tout ça, je trouve.
Frédéric Lefebvre, ces chaussures qui sont arrivées quasiment dans la figure de...
Vous savez, ce qui est triste, c'est de voir que cet homme est en train de s'excuser, qu'il a écrit une lettre, qu'il y a beaucoup de mouvements. J'ai vu qu'il y avait un Égyptien qui voulait lui donner sa fille en mariage. Enfin bon,
il est devenu un héros dans le monde arabe.
Oui, bon, tout ça, moi je trouve ça assez dérisoire. La réalité, c'est que George Bush, on a vu qu'il avait encore un peu de souplesse parce que il a évité tout ça avec un peu de dignité.
Mais est-ce que c'est un geste qui résume l'échec de George Bush en Irak?
Non, enfin, je pense que l'image est trop facile et elle fait trop plaisir. Moi, je voyais à l'instant notre ami Raymond réagir. Mais vous savez, je pense que dans cette affaire, d'abord, Nicolas Sarkozy, contrairement à ce qui est toujours dit, n'était pas particulièrement l'ami de George Bush.
Non, c'est pas le sujet.
Il était...
Je l'ai dit
à l'instant.
Ouais,
oui, mais non, mais attendez, c'est important parce que je crois qu'il faut avoir une vision assez claire de cette situation. Ça n'était pas particulièrement son ami. En même temps, Nicolas Sarkozy, y compris avant d'être président de la République, je crois qu'il a montré qu'il avait des relations avec tous les chefs d'État et avec les États-Unis. Et je crois que ce qu'il a dit à l'époque sur la position de la France, c'était évidemment pas... Et il a jamais dit qu'il était favorable à l'intervention. Et il a simplement dit, et je crois que c'était honnête de sa part, que quand on a des amis comme les Américains, il faut mieux leur dire les choses avec fermeté, certes, mais en ami, que de le dire avec un peu d'agressivité.
Alors, Pierre Aski, les chaussures vers George Bush.
Oui, contrairement à Frédéric Lefebvre, je pense pas que ce soit dérisoire. Je pense que la chaussure en elle-même est dérisoire et d'une certaine manière, il vaut mieux que cet homme ait lancé des chaussures plutôt que sorti une arme, comme on l'aurait fait il y a quelques années. Mais
ça aurait été impossible lors d'une conférence de presse avec
absolument.
George Bush.
Non, je pense pas que ce soit dérisoire. Je pense que c'est un symbole très fort. Et le fait qu'il soit devenu un héros, c'est triste sur l'état des populations concernées. Mais c'est un symbole de cet échec de l'administration Bush qui est quand même qui a changé le monde de manière calamiteuse et on en payera les conséquences. Obama va devoir recoller les morceaux et on en paye les conséquences partout. Et c'est un avertissement, je trouve, très intéressant par rapport à l'Afghanistan, parce qu'on est impliqué, nous, on n'est pas impliqué en Irak, on est impliqué en Afghanistan, où il y a un conflit qui n'est pas exactement de même nature, mais dans lequel il y a des rapports entre armée occidentale et population locale qui sont de même nature, et que les chaussures afghanes, il faudrait quand même ne pas en arriver là. Et ça, c'est un avertissement très important.
En arrêtant un mot.
Non, non, je pense juste aussi qu'il a fait ce que beaucoup de gens, dans leurs rêves les plus fous, auraient souhaité faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient souhaité envoyer leur paire de chaussures.
Ils peuvent le faire maintenant sur le web.
Dans leurs rêves, ils auraient aimé ne pas le rater, sans doute.
Ne pas le rater, absolument. Voilà.
Mais ils peuvent le faire sur le web, puisque vous avez un nombre de jeux aujourd'hui qui prolifèrent partout.
Mais vous oubliez.
Les Occidentaux rigolent sur le web en tirant des chaussures sur bouche, et le monde arabe jubile pour le même geste.
Mission accomplie, on peut le dire, absolument.
Vous oubliez qu'il l'a raté.
Voilà. C'est quand même ça le... On change de thème, tout à fait autre chose. Xavier Darcos et Nicolas Sarkozy ont reculé. Ils reportent la réforme des lycées face aux manifestations lycéennes. Xavier Darcos disait ce matin qu'il y a, je le cite, une manipulation derrière ces manifestations. Il met en cause l'extrême gauche. Pieraski, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est le bouc émissaire. Voilà, l'extrême gauche a menacé la SNCF. Maintenant, elle menace l'éducation nationale. Je pense que on se trompe. Que l'extrême gauche essaye de profiter de la situation, c'est logique, c'est son rôle. Elle existe pour ça, d'une certaine manière. Mais expliquer ces événements par l'extrême gauche, je pense que c'est une erreur fondamentale. Je pense que c'est comme pour la Grèce, on a dit la même chose, l'extrême gauche, etc. Je pense qu'il faut pas sous-estimer le malaise de cette jeunesse qui a tout d'un coup un avenir noir devant elle. Et si on ne comprend pas ça, si on comprend pas qu'on a une génération qui se dit mais c'est quoi le monde dans lequel on va entrer? Et ça s'adresse à tous les adultes, pas seulement à l'UMP, ça parce que la classe politique est démunie dans son ensemble de réponses. Je pense que là, on fait une erreur grave. Parler de manipulation, c'est totalement visé à côté de la plaque. Et là, c'est pas des chaussures qui se perdent, c'est des coups de pied.
Frédéric Lefebvre, député UMP des Hauts-de-Seine.
Moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je pense qu'il y a un vrai sujet de fond avec des jeunes qui avaient besoin de comprendre. Moi, j'ai un fils qui est lycéen, donc je vois bien les questions qu'il posait. Et en même temps,
il manifeste contre la réforme Darcos.
Il manifestait pas, mais il était plus qu'interrogatif. Mm-hmm. Et moi, j'ai eu des discussions avec lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses qui leur ont été dites qui étaient fausses. Il y a notamment une des anecdotes d'ailleurs qui m'a amusé, c'est que parfois dans les discussions, puisque moi je lui donnais des éléments. C'est lui qui a apporté des éléments, y compris à ses professeurs, sur par exemple la suppression soi-disant d'ES, c'est-à-dire d'économie de l'économie. Alors que la réalité, c'est que cette réforme, l'objectif, c'était au contraire qu'il y en ait dans toutes les sections, alors qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas dans toutes les sections. Donc je crois qu'il y a les deux, c'est-à-dire il y a cette inquiétude, c'est clair, mais il y a en même temps, comme on a essayé de faire croire, souvenez-vous, qu'on allait supprimer les maternelles. Enfin, il y a parfois des choses totalement ridicules qui sont dites par un certain nombre de gens, alors extrême gauche ou pas, c'est pas que d'extrême gauche d'ailleurs, mais des gens qui veulent se servir de la jeunesse pour essayer de bloquer l'action d'un ministre. Et je crois qu'il y a vraiment les deux.
Anna Raymond.
Ouais, moi j'ai pas, franchement, ça m'a un peu échappé le comportement de Xavier Darcos dans toute cette affaire. Parce que c'est quand même quelqu'un qui connaît l'éducation nationale, qui en vient. On pouvait se dire au départ, en voilà un qui connaît, donc qui va pas faire trop de bêtises. Et il les a accumulés, j'ai pas très bien compris. D'abord, la réforme. Dans le contexte difficile qu'on connaît aujourd'hui, d'angoisse de la jeunesse, etc. et tout, de ne présenter que la réforme de la seconde, sans dire ce qu'il y aura après, la première, la terminale, vers où on va, je crois que c'est créer de l'angoisse et de la panique. Et effectivement, ça donne pièce à tous les fantasmes, du coup. Parce qu'on se dit, et alors, qu'est-ce qui va se passer après? D'autre part, il a traité les syndicats et les associations et les manifestants et tout avec un mépris incroyable. À chaque fois, disant, mais c'est rien du tout, c'est quoi, c'est 1% des gens dans la rue. Il a pas arrêté. Et les maternelles, il a quand même fait une maladresse terrible avec l'histoire des profs chargés, des instituts chargés du couche pilote. Oui. C'est quand même une maladresse extraordinaire. Et ensuite, dans le contexte social dans lequel on est aujourd'hui de crise, continuer à supprimer des postes au rythme où on va, 13 500 de prévu encore au 2009, plus les RASED, dont je rappelle, on parle tout le temps des RASED, qui sont les réseaux d'aide aux enfants en difficulté. encore des suppressions d'emplois.
Que ça soit clair, c'est pas licencier ou renvoyer des gens.
Non, non, on est bien d'accord. Suppression d'effectifs.
Oui, mais je le dis pour.
Oui, mais dans le contexte actuel, c'est vraiment. Mais
justement. Donc, Alain Rémond, c'est pour ça que je dis vous, ça. Vous dites que Xavier Darcos n'est plus crédible, que sa méthode a échoué.
Je pense qu'il a lui-même un peu paniqué. Ouais, c'est vrai que le contexte est tel que le contexte est tel. Je voudrais juste terminer.
Tout ensemble, Frédéric, je vais faire un instant. Alain Rémond.
Non, mais le contexte social est tel qu'il a eu peur lui-même. Des conséquences de sa politique. Je l'ai entendu dire à la télévision l'autre soir, on reprend tout à zéro, on va réunir les états généraux, il aurait peut-être pu commencer par là. Je veux dire, mais c'est quand même...
Il a commencé par là, mais pas par
des consultations.
Je pense que c'est pas lui qui a eu peur, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a eu peur, et je pense que les images de la Grèce ont frappé tout le monde. La comparaison n'est pas nécessairement raison, mais en l'occurrence, le malaise de la jeunesse et cette incertitude sur l'avenir, il est partout, et le désespoir conduit au même geste un peu partout. Et je pense que le gouvernement, à juste titre, a eu peur que ce mouvement dégénère et qu'on assiste en France aux mêmes scènes de violence. Donc c'était sage de reculer. Ça ne ressemble pas beaucoup à Nicolas Sarkozy, mais c'était sage de reculer.
Alors justement, deux choses. D'abord, dire que Darcos, sa méthode est en cause, ça fait 18 mois, c'est un des ministres les plus réformateurs du gouvernement. Il les a alignés. Et ces réformes, ce n'est pas des petites réformes. Avec le soutien aux élèves en difficulté qui est mis en place, avec y compris d'ailleurs le système des heures sup pour les profs et qu'ils utilisent, on nous a tellement raconté d'histoires, ils les utilisent, ils sont ravis de le faire, avec la réforme des maternelles. Et donc les réformes, elles sont là, elles existent. Et simplement, dans cette affaire-là, je vous entends parler de reculade, bon, ça vous amuse les uns et les autres de dire ça, mais
c'est lui-même qui l'a dit, Darcos.
Non, il l'a pas dit. Oui. Attendez, laissez-moi aller au bout de ce que je dis. Qu'est-ce qu'a dit Xavier Darcos? Il a dit tout simplement, il y avait la réforme de la seconde, j'ai commencé dans le consensus, avec des protocoles d'accord qui ont été signés avec tout le monde, avec les enseignants, avec les lycéens. Tout le monde s'est mis d'accord sur la nécessité de faire cette réforme du lycée globale, avec notamment une meilleure orientation, une meilleure formation et pour les élèves.
Non, mais là, on repart à zéro.
Attendez, vous permettez que je termine? Il a essayé de faire une chose, c'est pour pouvoir mettre la réforme de la seconde et aller vite, parce que chacun sait qu'il faut la faire cette réforme, ça fait 20 ans qu'on la fait pas, mais il faut la faire. Il a essayé de passer la seconde avant le mois de décembre pour que ça puisse être à la prochaine rentrée. Oui. Et là, il y a eu des incompréhensions. Et il a dit quoi? Il a dit on va discuter et on va faire la réforme globale. Et je recommence dès le début janvier. On reprend la réforme globale pour qu'elle soit applicable le plus vite possible. Oui. Alors vous pouvez appeler ça recul. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez.
On peut habiller ça comme on veut. Il s'est passé la même chose qu'avec tous les ministres de l'éducation précédents.
C'est pas vrai.
Face à la rue, on préférait reculer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est ça.
Le CPE n'existe pas. Oui, mais la réforme Darcos, les lycéens disent on n'en veut pas.
Le CPE est une réforme. Je le sais bien. J'étais à ce moment-là. En plus, j'ai contribué avec Nicolas Sarkozy à sortir du conflit. La réforme, elle était là. Tout le monde la connaissait. Là, on a un cas de figure qui est très différent. Il y avait une conférence de presse pour présenter une réforme qui n'a même pas eu lieu. La réforme, en réalité, personne ne la connaissait. C'est bien le problème. C'est pour ça d'ailleurs que parfois des absurdités circulent.
Est-ce que je partage pas vos points de vue? La réforme de la seconde, on la connaissait. D'ailleurs, elle n'est pas les idées. Vous disiez qu'il y avait consensus sur cette réforme, c'est vrai d'ailleurs, hein, parce que il y avait des idées très justes qui étaient partagées par beaucoup de monde dans la réforme de la seconde.
Dans le détail, elle n'a jamais été présentée.
Non. Et vous croyez pas que c'est une grosse erreur de s'être arrêté précisément à la seconde et de laisser un grand vide derrière? On a un projet global.
C'est formidable ce qui s'est passé. Je suis en train de vous dire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Reculer, ça voudrait dire quoi, comme le CPE, qu'on ne fait pas la réforme. Or là, on va la faire.
On prend les paris, je ne sais pas.
Les paris, vous savez, ils sont pris.
Vous l'avez entendu,
de la même façon, j'entends qu'on dit qu'on recule sur le travail le dimanche.
Oui,
vous allez voir.
On ne mélange pas tout.
Le 15 janvier, on va commencer à légiférer sur le sujet.
C'est vrai, vous avez entendu que les lycéens disent non à cette réforme, il faut la retirer, et ils disent aussi non aux suppressions de postes.
Ils ne la connaissent pas, la réforme.
Comment ça?
Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Non. La réforme, personne ne l'a présentée dans le détail. On la connaît pas.
Je suis pas d'accord avec vous, bien sûr que moi je la connais. Comment ça se fait que je la connais?
Mais alors, dites-la moi parce que ça m'intéresse.
Xavier Darcos en a présenté les grandes lignes dans le journal du dimanche.
Non, mais c'est pas les grandes lignes, c'est ce que je vous dis, les orientations sur lesquelles tout le monde était d'accord. Le problème, il était qu'avant même la conférence de presse pour présenter le détail de la réforme, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple de mon fils, parce que il se trouve que je l'ai vécu, les lycéens parlaient entre eux, les profs leur disaient des trucs qui ne correspondaient pas à ce qui allait être fait, et c'est pour ça que je dis cette réforme, elle n'existait pas encore. Oui. Elle n'avait même pas été présentée, donc elle devait l'être quelques jours après.
Il ne s'est rien passé, Frédéric Lefebvre. Voilà.
Et en tout cas, il y a une chose... Y a une
ça,
chose...
c'est de la caricature. Que
vous... En tout cas, il y a une chose d'assure, c'est que si plus Darcos dira que c'est de la manipulation et que c'est l'extrême-gauche, et plus il a des chances de revoir le mouvement après les vacances.
On va aller au standard de France Inter. Gabriel nous appelle. Gabriel se trouve dans l'Isère. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Gabriel.
Mais écoutez, là, j'écoute donc votre émission et moi, ce qui me gêne un peu, c'est cette violence de la rue. C'est-à-dire que chaque fois qu'un ministre de gauche ou de droite essaye de faire quelque chose par rapport à l'éducation nationale, on envoie les jeunes en première ligne. Et moi, en ayant travaillé avec des jeunes pendant 40 ans, ça me gêne un peu, ça, parce que, si vous voulez, moi, je crois qu'en démocratie, la violence ne résout pas les problèmes. Et c'est ça qui me gêne.
Alors, vous dites...
Et j'ai peur qu'un jour ou l'autre, ça revienne comme un boomerang à la figure des gens qui déclenchent cette violence.
Qui veut réagir?
Moi, je pense qu'il a raison.
À Frédéric Lefebvre.
Il a raison parce que ce qu'il vient de dire est très important, c'est que il y a évidemment des jeunes qui ont des inquiétudes, mais en même temps, et alors est-ce que c'est l'extrême gauche ou pas, est-ce que c'est les syndicats ou pas, peu importe, mais en même temps, chacun sait qu'ils sont parfois utilisés en bouclier par notamment un certain nombre de syndicats d'enseignants, pour essayer de leur faire faire le boulot, de déstabiliser tel ou tel, parce que eux n'y arrivent pas par la discussion sur d'autres réformes d'ailleurs. Bon. Et là d'ailleurs, on parle même plus de la réforme des lycées, on essaye de leur faire porter tout le reste, tout ce qui était porté par les syndicats depuis des semaines et des semaines, on essaie de le faire porter par les lycéens.
Pieraski, rue 89.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est dans une situation qui est quand même très spéciale? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la personne qui a téléphoné. Je pense qu'on est dans un climat d'incertitude, de civilisation quasiment. Je veux dire, vous êtes un jeune aujourd'hui qui s'apprête à rentrer dans le monde du travail. Vous êtes dans un environnement où vos parents s'inquiètent pour leur boulot. Les classes moyennes sont en train de lâcher prise. Pour la première fois depuis 150 ans, la machine qui faisait que chaque génération vivait un peu mieux que la précédente, a stoppé. Et on ne sait pas si elle pourra reprendre. Et les politiques n'ont pas de réponse à ça. Et là, je ne mets pas en cause le gouvernement. Je pense que la classe politique n'est pas préparée à cette situation. Et pas seulement en France. Et donc là, je pense que cette jeunesse, elle essaye de lancer un SOS qui est beaucoup plus large que la petite réforme. Et qu'est-ce qu'elle voit autour? Elle voit des suppressions de postes dans l'éducation. Elle voit, on coupe de tous les côtés. Elle entend quand même les conversations des parents à la maison. Tout ça me semble un climat terrible.
Elle voit après les cours qu'il y a maintenant des systèmes de soutien pour les élèves en difficulté, ce qu'il n'y avait pas avant. Bon. Elle voit que sur la réforme des lycées, les élèves, ils veulent une réforme du lycée. Croyez pas qu'ils n'en veulent pas. Et donc simplement, moi je pense que c'est pour ça qu'il a eu raison. Il faut rediscuter le détail avec eux. Et à partir du moment où c'était parti dans le consensus, il faut que ça se termine dans le consensus.
Alain Raymond.
Non, mais pour revenir à la question de l'auditeur, c'est précisément parce qu'il y a des risques de dérapage et de violence, et qu'on sait que quand la jeunesse est dans la rue, les lycéens en particulier, on ne sait jamais comment ça peut tourner, sans qu'il y ait besoin de provocation, ni de manipulation, ni quoi que ce soit, qu'il faut être très prudent. Et je trouve que Xavier Darcos ne l'a pas été.
Et c'est pour ça que c'est pas bien que les enseignants,
il n'a pas
parfois,
été,
les poussent à
pas
aller
du
dans
tout.
La rue.
Écoutez, je connais assez bien le milieu des enseignants.
Moi aussi.
Voilà, donc on peut difficilement dire ça en l'occurrence. Si, cette
vous
fois-ci.
Ne croyez pas que
alors que là, je trouve que
de prendre des initiatives tout seul.
Non, je voulais juste dire je voulais juste dire que Xavier Darcos a joué à la provocation en arrêtant pas de minimiser les manifestations, les réactions des syndicats, les réactions des gens, les gens, c'est rien du tout.
Mais c'est quand même,
c'est rien du tout. Il les a provoqués un peu, ce qui se passe.
C'est quand même la première fois que Nicolas Sarkozy recule devant la rue.
Mais vous savez, écoutez.
Est-ce que c'était un tournant dans le quinquennat?
Reculer devant la rue. Enfin, franchement, tout ça.
On remet tout à plat.
Mais vous essayez, les uns et les autres, de vous faire peur et de donner le sentiment que c'est une immense reculade sur une réforme qui ne se fera pas, alors que moi je vous le dis, c'est banal. Il y avait simplement un ministre qui a essayé, dans la réforme globale qui va se faire, de sortir la seconde pour essayer d'aller plus vite. Du coup, il a sans doute été un peu trop rapide, alors que ça partait dans le consensus, et il va reprendre la démarche normale, et la réforme se fera. Il n'y a pas de reculade.
Et vous savez, les manifestations lycéennes sont prévues dès le 8 janvier.
Mais justement, et ça n'empêchera pas que la réforme globale se fera, et vous verrez qu'elle se fera avec les lycéens. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre avec certains de leurs représentants. La vérité, c'est qu'ils la veulent, la réforme.
C'est Pierre Aski, le mot de la fin, avant de passer à autre chose.
Vous dites que c'est banal, mais vous admettrez que ça ne l'est pas pour Nicolas Sarkozy. C'est tout.
Il suffisait de voir la tête de Xavier Marcos au Sénat l'autre soir, écoutez, en annonçant qu'il reprenait tout à zéro. Il n'avait pas la tête.
Vous prenez les uns et les autres beaucoup de plaisir à quelque chose qui, en réalité, et c'est pour ça que je dis banal, parce que ça n'est pas un recul ou un retrait. Il n'y a pas une réforme qui est abandonnée.
On va juste dire que c'est une marche arrière.
Mais c'est, moi, j'appelle ça une marche
arrière. On joue sur les mots. On va arrêter parce que là, on joue sur les mots.
C'est avancer moins vite.
On joue vraiment ça. On joue sur les mots.
Eh oui, mais vous savez, en marche, la marche arrière, chez moi, vous reculez. Hein. Oui. Alors que avancer moins vite, vous continuez d'avancer.
D'accord. Bon, voilà. 19h42, autre thème.
Plus que tu pédales moins vite, moins t'avances davantage, comme disait ma grand-mère.
Le téléphone sonne, les polémiques de la semaine.
Qu'est-ce que vous disiez, Alain Raymond, parce que la ponctuation musicale est partie sur votre voix.
Je disais, plus que tu pédales moins vite, moins que tu avances davantage.
Le téléphone sonne, les polémiques de la semaine, émission préparée par Aïssa Blankoff et réalisée par Cathy Rosier. Le travail dominical, le débat parlementaire est reporté au mois prochain. On va de compromis en compromis et l'obstruction parlementaire de l'opposition.
Il y a un recul.
Non, non, laissez-moi terminer. L'obstruction parlementaire de l'opposition a marché, semble-t-il. Le débat est reporté au 15 janvier. Pierre Aski, que pensez-vous de la stratégie de l'opposition?
C'est l'obstruction parlementaire au sein de l'UMP, non?
Il y a l'opposition de gauche qui proteste contre ce projet et ça patine aussi du côté de l'UMP. Hein.
Oui, parce que le phénomène intéressant, c'était quand
c'est
même
Pierre Aski, alors.
Le phénomène intéressant, c'était quand même celui-là. C'est ce qui s'est passé au sein de l'UMP avec cette fronde des députés. Mais moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est la méthode. Je comprends pas la méthode de Nicolas Sarkozy en ce moment. Parce que face à la situation qu'on connaît, l'INSEE ce matin donnait les perspectives de l'année prochaine qui sont absolument catastrophiques. Et on est là à se battre au Parlement sur la télévision. Hein, c'est quand même un petit peu décalé comme préoccupation.
C'est un message que vous envoyez à la
Croix.
Non, c'est un message que j'envoie.
J'ai cru que c'était ça.
Non, je comprends pas. Je comprends pas les priorités de l'agenda gouvernemental. Je ne suis pas sûr que la réponse à l'ampleur de la crise que vit la planète, pas seulement la France, ce soit la réforme de la télévision, d'ouvrir le trottoir de droite des Champs-Élysées.
Il faut arrêter les états généraux de la presse, il faut tout arrêter.
Mais c'est pas ça.
C'est la crise. On arrête ça.
Frédéric Le Père,
on arrête tout.
C'est que j'ai pas le sentiment que les Français... Et j'ai pas le sentiment que les Français entendent une cohérence globale de l'action gouvernementale sur ces questions. Et donc, vous avancez par petites touches qui ne sont pas comprises et qui touchent et qui donnent le sentiment qu'il y a une érosion globale des choses. Le travail le dimanche, à la fois on est très content de trouver son magasin ouvert et en même temps on a le sentiment de quelque chose qui s'ébranle et qui se casse.
Alain Raymond.
Mais moi, je voulais parler un peu du fond. Enfin, il me semble me souvenir, j'ai un petit trou de mémoire, mais quelqu'un avait fait un grand discours en janvier de cette année, en tenant un hymne à la politique de civilisation. Mmh. C'est peut-être Nicolas Sarkozy. Et la politique de civilisation, là, elle fait sacré bon en avant, je trouve, avec l'obstination qu'il a à vouloir faire travailler le dimanche. Comme si les seules valeurs, c'était effectivement travailler plus, gagner plus, gagner plus, consommer plus, consommer plus. Mmh. Le dimanche... Tout d'un coup, il y a une valeur qui rentre pas dans le schéma, c'est la gratuité, le temps qu'on donne, qu'on prend pour soi, qu'on donne aux autres, c'est le partage, c'est s'arrêter un peu, se poser, c'est pas forcément gagner, c'est pas forcément consommer, ça s'appelle du loisir aussi. Mmh. Et ça, j'ai l'impression que la civilisation, elle est peut-être là aussi, parce que je me souviens du premier discours de Christine Lagarde devant le Parlement, j'ai trouvé ça extraordinaire, elle avait quand même dit « il faut réhabiliter l'argent ». Voilà, l'argent avait besoin d'être réhabilité. Eh ben, on voit où on en est. Et je trouve que la civilisation, c'est peut-être ça aussi. Penser aux hommes, aux femmes, penser au temps du dimanche, penser aux loisirs, penser aux enfants, penser à la famille. Oui. Et que c'est peut-être, la première nécessité n'est peut-être pas d'augmenter encore le temps de consommation. Et que si, bon, on va pas parler des autres sujets tout à l'heure, sur le travail lui-même du dimanche et des modalités pratiques, mais sur le fond, voilà les questions que ça me pose.
Moi, je voudrais rebondir avec Frédéric Lefebvre.
Maman fait la cuisine, papa lit le journal le dimanche à la maison, il faut pas sortir.
Vous avez une conception du couple qui me plaît beaucoup.
Justement, c'est plutôt, je vais parler de la vôtre.
Non, parce que ce que vous venez de croyez que c'est ce que je fais le dimanche?
En tout cas, ce que vous venez de décrire.
Mais vous savez, il existe plein de choses à faire le dimanche ensemble.
Ça ne correspond pas beaucoup à la réalité. De même que quand j'entends dire, oh, mais c'est scandaleux, on peut pas aller à l'église, les chrétiens sont contre aller le dimanche. Franchement. Moi, je vais de temps en temps à l'église, je fais mon jogging assez régulièrement. Quand il m'arrive d'arriver à l'heure de la sortie de la messe, je vois tout le monde sortir aller boire un café, acheter son journal, acheter sa baguette, acheter, quand il fait beau, de la viande pour faire son barbecue.
Sauf ceux qui travaillent dans les supermarchés.
Oui,
ce jour-là.
Bien sûr. Mais pour que vous achetiez à votre boulanger, il y a bien quelqu'un qui travaille le dimanche.
Oui, absolument. Est-ce qu'il en faut plus?
Mais pourquoi plus?
Non, mais est-ce qu'il en faut plus?
Parce que les gens souhaitent avoir.
Mais non, les gens. Bon.
Eh ben oui, regardez les sondages.
Mais il serait mieux payé peut-être qu'il ne souhaiterait pas le faire.
60% des Français dans le dernier sondage disent qu'ils souhaitent que les magasins soient ouverts le dimanche. Alors, après, on peut refuser de regarder la réalité. On peut aussi considérer que dans le débat de l'élection présidentielle, cet engagement n'a pas été pris, mais il l'a été. Les gens ont voté. Et donc, quand vous prenez des engagements, quand vous considérez qu'il y a une attente des Français, que vous pensez qu'en plus c'est bon, parce que quand j'entends dire que c'est pas bon pour le pouvoir d'achat, que ça change rien, on oublie de dire que la personne qui va travailler le dimanche, souvent des jeunes, des étudiants qui eux ont pas envie de travailler le soir, et qui sont très contents de travailler le dimanche, promenez-vous de temps en temps, allez dans le Marais, allez à certains endroits, discutez avec les gens qui travaillent le dimanche.
Il m'arrive de me promener,
quand vous discutez avec les gens, les jeunes qui travaillent, c'est des étudiants, et ils en ont besoin.
Voilà. C'était donc Alain Raymond, Frédéric Lefebvre, Pierre Aski. Je voudrais revenir à votre argument, et que Frédéric Lefebvre réagisse. C'est vrai, on constate que ça coince ces deux projets, l'audiovisuel et le travail le dimanche. Est-ce que le travail le dimanche ou la réforme audiovisuelle, ce sont des priorités alors qu'il y a actuellement la crise économique, la récession?
Si on a passé 5 semaines sur l'audiovisuel, c'est parce que on a un parti socialiste qui est tellement divisé.
Excusez-moi, c'était dans le programme. C'était dans le programme de Nicolas Sarkozy. Puisque vous disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'il honore ses promesses sur le travail le dimanche.
Dans son discours sur
c'était dans son programme.
Oui. La civilisation.
C'était dans son programme de candidat.
Est-ce que je vous ai dit qu'il ne ferait que ce qui était dans son programme? Par exemple, vous faisiez référence tout à l'heure au discours sur la civilisation. Est-ce que c'était dans son programme, monsieur?
La politique de civilisation.
Et il se trouve que ça n'était pas dans son programme. Et que quand, par contre, vous avez une situation, on va s'y arrêter 2 secondes. Il y avait une urgence pour l'audiovisuel. Et chacun ici autour de la table sait parfaitement que sur la publicité, sur France Télévisions, la publicité se cassait la figure.
Pas en janvier.
Je vous lance un défi, vous regarderez les chiffres. Ouais. Avant même que Nicolas Sarkozy ne prenne la parole, monsieur Raymond. C'est-à-dire du 1er au 8 janvier, il a parlé le 8 janvier. Demandez, les chiffres, ils sont pris jour par jour sur la pub.
Vous croyez que c'est la préoccupation essentielle des Français en ce moment?
Mais moi je vous dis que quand vous alliez au bout de l'année, vous laissiez faire, vous aviez 150 millions d'euros à trouver pour France Télévisions. Et ça c'est la préoccupation des Français. Comment vous faisiez? Expliquez-moi, donnez-moi la solution. Quand je demande aux socialistes ce qu'il faut faire, ils ne veulent pas augmenter la redevance? Ils ne veulent pas.
Les socialistes ne veulent pas?
Non. Ils ne veulent pas, ils nous l'ont répété. Les écouter. Cinq semaines dans l'hémicycle pour ne rien dire, sauf répéter sans arrêt la même chose. Non, ils ne veulent pas.
Alors moi, je vous le dis, je suis pour la hausse de la redevance.
Socialistes. Ils ne veulent pas.
Alors, vous avez bien remarqué donc que ces débats n'avancent pas. Le débat sur l'ouverture dominicale est reporté au 15 janvier.
Après les fêtes.
Oui, d'accord, mais c'était prévu. Normalement, Nicolas Sarkozy voulait que tout soit bouclé avant fin de l'année.
Mais oui, je viens de vous dire, on a passé 5 semaines sur l'audiovisuel.
Il va avancer plus lentement.
Alors que normalement, on devait... Mais exactement. Et moi, je le regrette. L'obstruction parlementaire, c'est pas de l'obstruction qu'on a vu, c'est de l'entrave. De l'entrave. Et c'est pour ça que moi j'attends avec impatience la réforme du règlement qu'on est en train de mettre en place. Parce que j'entends dire et pousser des hauts cris sur vous allez nous enlever tout droit d'amendement. Mais pas du tout. On va enlever un droit à l'obstruction. Et enfin, j'espère qu'on va avoir un Parlement avec des socialistes qui, au lieu de pratiquer l'invective, l'injure et même la menace physique. Parce que là, les derniers débats sur le dimanche, il a fallu quand même qu'il y ait 12 huissiers qui arrêtent Monsieur Grémetz ou Monsieur Emmanueli qui passaient leur temps à injurier ou à menacer physiquement des députés UMP. Enfin, il y a un moment quand même où il faut raison garder. Le Parlement, moi je regarde ce qui se fait dans les parlements d'Europe avec une gauche qui fait des propositions. Là, moi, j'essaye d'entendre les propositions.
Mais vous savez,
j'entends rien.
Frédéric Lefebvre, vous savez que sur cette réforme audiovisuelle, il y a des réserves du côté de l'UMP, et sur le travail dominical, il y a aussi des réserves dans votre parti.
Bien sûr. Bon, alors, mais nous, on a des débats d'idées.
C'est précisément, ce que je voulais dire.
Avec des injures.
Non, jamais à droite, jamais. Ça, c'est connu. Je voulais juste reprendre ce que disait Pierre Asquier. L'obstruction, en l'occurrence, elle vient de la cinquantaine de députés de droite de l'UMP qui ne veulent pas de la réforme du travail du dimanche. C'est là qu'elle vient. Et comme pour l'audiovisuel, elle vient du Sénat.
Vous avez raté un
à droite.
Épisode. Je vous fais une révélation. Compromis qui a été trouvé.
Bien sûr.
Mais avant l'ouverture de la discussion.
Qui vide la loi de la substance.
Ben voilà. Ça, c'est ce que vous dites.
Ben oui, en tout cas, c'est une réalité.
Non, qui avance plus lentement.
C'est-à-dire qu'il y aura 8 dimanches, 8 possibilités d'ouverture des magasins.
Faites pas de débat parlementaire à notre place.
Par an.
On est là actuellement. Non, le compromis, c'était... Alors, il y a plusieurs choses, mais il y a d'abord surtout...
On est au standard.
Oui, mais vous savez, à un moment, il faut dire les choses.
Non, mais ça se réduit quand même. C'est fini l'ouverture des magasins le dimanche.
Ça n'a jamais d'ailleurs été prévu. Hein. Partout, comme ça. Ça n'a jamais été prévu dans la première proposition initiale. C'était pas l'ouverture partout, tout le temps.
On n'était pas loin de ça, quand même. La politique de civilisation de Nicolas Sarkozy, c'était quand même...
Non, mais que les gens, parce que c'est important pour les gens de savoir ce qui va être fait. La totalité
pour l'instant,
des
rien n'a été voté, alors.
La totalité des zones... Ben justement, donc c'est ce que je vous rappelais à l'instant quand vous disiez que c'était 8. La totalité des zones touristiques, les zones frontalières, et puis sur l'ensemble du territoire, le compromis qui a été trouvé entre le président et les parlementaires, c'était passé de 5 à 10. Il y a un amendement qui a été voté en commission des affaires sociales pour le passer à 8.
8 dimanche.
Mais attendez, il y a d'autres parlementaires qui entendent bien... soit revenir à 10 pour certains, soit d'autres vouloir aller plus loin.
Vous,
il y a un
débat, vous, par
et c'est normal. Bon,
ouais. Tout va très bien. Au standard, Frédéric Capot.
Oui, bonjour à tous. Je trouve effectivement, moi aussi, l'acharnement de la droite à vouloir faire travailler tout le monde à une époque où le chômage augmente, tout à fait sympathique. Je dirais que depuis 150 ans environ en France, l'ingéniosité des humains a fait qu'on a travaillé à peu près 2 fois moins pour gagner 10 fois plus. Ça s'appelait le progrès. Alors je me demande si cet acharnement à vouloir faire travailler tout le monde, pas simplement le dimanche, mais en reculant l'âge de la retraite et les heures supplémentaires, n'est pas en fin de compte tout simplement un repos du progrès, d'autant que ce temps de travail supplémentaire n'est pas un temps choisi, bien entendu, chacun le sait, mais un temps imposé simplement pour la plupart des salariés pour pouvoir simplement boucler les fins de mois.
Frédéric Lefebvre.
Alors d'abord,
rapidement.
L'idée c'est pas que tout le monde soit obligé de travailler. Bon. Si des gens... veulent travailler plus, qu'ils puissent travailler plus. Si des gens veulent travailler le dimanche, qu'ils puissent travailler plus.
Ça, c'est sur le papier.
Mais c'est la réalité, c'est pas sur le papier.
Vous croyez franchement
de la même façon que j'entends dire en permanence la retraite à 70 ans, c'est encore quelque chose qui est faux, qui est caricaturé. Je le dis, comme ça, ça me donne une occasion de le dire à France Inter. C'est pas la retraite à 70 ans, la retraite, elle est toujours à 60 ans. Simplement, avant, le patron pouvait obliger le salarié à partir à 65 ans. Maintenant, il ne pourra pas l'obliger à partir avant 70 ans. C'est quand même pas la même chose. Et d'ailleurs, ceux qui râlaient le plus, c'est les patrons. Parce qu'ils disaient, on va être obligé, du coup, si on veut que quelqu'un parte avant 70 ans, on va être obligé de le licencier. Et ça nous coûtera de l'argent.
Pierre Asquier.
Cet auditeur met le doigt sur un vrai problème qui est au cœur de toutes les réflexions. C'est la notion du progrès. C'est quoi le progrès aujourd'hui? On a le sentiment que par petites touches, on vous rajoute des franchises médicales par-ci, un peu plus de retraite par-là, un peu plus de travail par-ci. Et que... en gros, sans le dire, on change la nature du système social et du contrat social dans ce pays. Et y a un vrai souci, je pense, et ça rejoint tous les sujets qu'on a traités depuis le début de cette soirée, c'est cette question de l'égalité d'une certaine manière. C'est-à-dire, je pense que les Français accepteraient l'idée d'une réduction du train de vie de la France, puisque c'est à ça qu'on est condamné aujourd'hui. S'ils avaient le sentiment que tout le monde était traité de manière équitable et que voilà, on doit passer par cette phase de serrer la ceinture parce que la conjoncture est ainsi faite. Or, même si Nicolas Sarkozy, dans son dernier discours sur son plan de relance, a dit l'égalité, c'est le principe fondamental, etc., c'est évidemment pas le sentiment qu'ont les gens à écouter toutes les mesures, à commencer par le bouclier fiscal au début, etc. Donc, c'est ça qui est au cœur du débat. Quelle est la définition de ce progrès? Quelle est la nature
le RSA,
des réformes?
Vous n'avez pas entendu parler, par exemple, du RSA. Franchement, moi, je regrette pas qu'on l'ait fait. Tout le monde en parlait. C'est nous. 4 millions de personnes vont en bénéficier dans la crise. On nous disait, vous allez trop vite, il faut pas le faire, c'est pas bien. Qui a eu le courage d'ailleurs de poser la question du financement. C'est bien nous. Et encore une fois, la gauche ne le faisait pas. Le plafonnement global des niches fiscales, ça, c'est pas de la justice. Que plus personne qui ne paye aucun impôt quand on est très riche, maintenant, chacun sera obligé de payer des impôts. Qui l'a fait, la gauche?
Dernier,
pas du tout.
Dernier sujet, Frédéric Lefebvre, on arrête là, la prison de Fleury-Mérogis, filmée de l'intérieur par des détenus. 2h30 d'image, ça va donner lieu à un documentaire. Les prisons françaises sont-elles un scandale permanent? Alain Raymond.
Oui.
On voit des images très très dures,
oui,
les conditions de détention à Fleury-Mérogis.
Mais ces images sont une vraie piqûre de rappel, terrible, parce que les prisons françaises sont un scandale, c'est plus que ça, c'est une honte. D'ailleurs, l'Europe le dit régulièrement, la France est régulièrement rappelée à l'ordre pour ça. Le Conseil d'État vient de rendre des avis motivés, d'ailleurs, par les commissaires du gouvernement très longuement sur cette question-là, sur le respect des droits des détenus, sur le fait que la loi doit primer à l'intérieur des prisons, et c'est un vrai scandale, ne serait-ce que par la surpopulation carcérale. Je crois que c'est 124% de plus que le taux d'occupation normal. Il y a 23%, je crois, de malades, de psychotiques graves dans les prisons. Il y a le fait qu'il n'y ait toujours pas de cellules individuelles, que la loi pénitentiaire qui est en projet, d'ailleurs qui est encore repoussée là-dessus, et revient en arrière là-dessus, parce qu'elle n'exige pas, comme c'était prévu et comme ça devrait être fait, comme l'Europe le demande aussi, des cellules individuelles. Et enfin, tout ça marche sans dessus. C'est plus qu'un scandale. Encore une fois, c'est une honte, et on sait ce que ça produit.
Ces images, Pieraski, on les a vues, images très très dures, des douches, si on peut appeler ça des douches, hein, des cours sales, avec des détritus partout.
Moi, j'aime bien l'expression de piqûre de rappel, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on traîne, c'est un boulet que traîne la France depuis des années. Les rapports du Conseil de l'Europe sont là pour le rappeler. C'est incompréhensible qu'on ait... Alors, c'est vrai que les priorités, elles sont nombreuses et longues, etc. Mais ne pas considérer que ça fait partie aussi des droits de l'homme, tout simplement, c'est terrible. Et c'est, je trouve ça salutaire qu'effectivement, de temps en temps, on n'oublie pas ces problèmes. Et oui. Cette vidéo, elle est accablante. Il y en a une deuxième, il ne faut pas oublier non plus, qui est sortie le même jour, c'est le centre de rétention de Mayotte.
Absolument.
Et territoire français de l'océan Indien,
qui
là aussi est une honte.
Alors, voyant ces images...
Évidemment que c'est très choquant. Et personne ne peut se faire à l'idée que les conditions de détention soient aussi parfois inhumaines.
Ils ont eu raison, ces détenus, de se débrouiller
pour
obtenir des caméras,
pour
montrer leurs conditions de vie.
C'est pas à moi de dire s'ils ont eu raison ou pas, mais en tout cas, je pense que, piqûre de rappel, je pense que c'est une bonne formule. Et je vais vous dire une chose. D'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, non pas comme c'était avant, vider les prisons pour rééquilibrer et qu'il y ait moins de monde. Du coup, on graciait n'importe qui et on faisait sortir à tour de bras. Ça, moi, je veux plus le voir. Parce que c'était l'élément de régulation. Par contre, ce qu'il faut, évidemment, il va falloir construire des prisons. Et je ne dis pas ça avec plaisir, parce que c'est jamais quelque chose de plaisant de dire ça dans une société, mais je crois que c'est ce qu'il va falloir faire pour avoir des prisons plus humaines. Il faut mettre de l'argent pour rénover les prisons existantes. C'est le cas d'ailleurs de Fleury-Mérogis, il y a un gros budget qui est prévu depuis déjà quelques mois. Les centres de rétention, celui de Mayotte, c'est terrible, ce qu'on a vu comme image. En même temps, je veux dire que dans beaucoup des centres de rétention où il y a eu notamment des incendies volontaires il y a quelques semaines ou quelques mois, c'était des centres de rétention qui, eux, avaient été rénovés, que d'ailleurs, sur la question de la rénovation des centres de rétention, sur la fermeture d'un certain nombre de centres qui étaient inhumains, sans gâte. Là encore, qui fait, qui agit, voilà. C'est nous.
Et oui, avec une politique judiciaire qui aboutit à remplir les prisons encore davantage.
Ce qui remplit les prisons, c'est la délinquance, voilà. Monsieur.
Il est 20h, c'est terminé. Merci Frédéric Lefebvre, merci Pieraski, merci Alain Raymond.
Et merci Pierre Veille.
Et nous sommes en retard.
Pour évoluer dans mon entreprise,